Empreinte, la signature de l'eau en Provence. Un documentaire du projet Water Stories, réalisé par Bruno Lambert et Nelly Kars, produit par Octopus Productions sous tutelle du programme d'éducation environnementale Les Marcheurs de la Terre. Ce documentaire de 52 minutes est un film grand public à vocation de sensibilisation à la ressource en eau sur fond de découvertes territoriales esthétiques souvent inédites. Bruno Lambert, au micro d'Odile Frison.
Bruno Lambert, vous êtes auteur et également réalisateur. Un quatrième documentaire vient de sortir, un documentaire de 52 minutes sur votre projet Water Stories, Empreinte. Qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà, c'est le troisième documentaire. Il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas inclus dans la série Water Stories. Alors Water Stories, déjà, c'est une série qui est axée sur l'eau, comme le dit précise le nom. Et le but de cette série de documentaires de 52 minutes, qui est aussi s'accompagne d'une série de ciné-rencontres et de projets éducatifs destinés aux écoles, établissements scolaires, centres aériens, etc., c'est d'inciter le public, d'aider le public à conscientiser, je dirais, l'importance de l'eau en tant qu'élément et l'importance des enjeux de la ressource en eau. Cette idée nous est venue en 2017 avec le projet de La Dame des Lacs, qui était le premier film de la série. Alors que 2017 était une année où on voyait déjà que de toute façon, il allait y avoir un problème de pénurie. Voilà. Suite à quoi, on a pris connaissance de certaines études qui prédisent que d'ici à 2050, on risque d'avoir d'énormes problèmes de déficit en eau sur tout le territoire PACA. Alors cette problématique est universelle, hein, il n'y a pas que le territoire PACA, on la retrouve un petit peu partout sur la planète. Donc le troisième documentaire Empreinte, la signature de l'eau en Provence, en fait tout est dans le titre. Donc cette fois-ci on a interrogé la signature de l'eau sur le territoire PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors cette signature bien sûr c'est une marque, hein, c'est la marque de l'eau sur le territoire. Et cette marque se lit partout dans le paysage et dans les aménagements. C'est-à-dire que c'est l'eau qui a façonné, je dirais, les reliefs. Alors les plus connus, ce sont les gorges du Verdon, la vallée du Var, la vallée du Bail, etc., etc. Donc tous ces reliefs parlent d'eux-mêmes parce que c'est l'eau qui les a fabriqués. Ce sont également donc les aménagements des hommes, alors que ce soit l'implantation des villes ou des villages. Ces lieux de vie se sont installés généralement proches des cours d'eau. Alors ça peut être des grandes rivières comme la Durance, mais ça peut être également des tout petits cours d'eau ou des points d'eau. Et ces aménagements, ce sont aussi tous les aménagements qui sont voués à canaliser et domestiquer l'eau pour pouvoir cultiver et pour pouvoir vivre tout simplement. Alors, cette marque, on l'a interrogée, on va dire, depuis les temps néolithiques. Alors, les temps néolithiques sont des temps préhistoriques, c'est-à-dire c'est l'époque où le chasseur-cueilleur, tout doucement, s'est transformé en agriculteur-éleveur. Donc, c'est quelque chose comme 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et à cette époque, déjà, nos ancêtres avaient besoin des cours d'eau pour abreuver le bétail et pour commencer à irriguer leur culture. Et puis, petit à petit, ces aménagements se sont peaufinés, ont pris de l'ampleur. On arrive à l'époque des Romains, qui étaient bien présents sur le territoire. Donc là, on est quelques 2000 ans en arrière, et toute la région de PACA possède également de très très beaux vestiges de l'aqueduc romain, donc qui démontrent effectivement qu'il fallait capter l'eau assez haut en amont pour pouvoir l'amener sur les basses terres arides. En fait, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ensuite arrivent les grands aménagements du Moyen-Âge et de la Renaissance avec les premiers canaux de la Durance, pareil, qui avaient pour objectif d'aller capter l'eau des montagnes pour pouvoir l'amener sur la basse Provence, qui elle n'en avait plus l'été. Et puis, il faut aussi parler des grands aménagements hydroélectriques qui ont été construits après-guerre pour reconstruire donc le territoire qui avait besoin d'eau et qui avait besoin d'électricité. Alors ces aménagements en Provence, alors quand je parle de Provence, on est bien d'accord, hein, je parle de tout le territoire PACA, hein, je ne parle pas que de la Provence méridionale, on a tous les aménagements de la Durance, que ce soit le canal EDF, que ce soit les grands aménagements comme ça à Ponçon, on a les aménagements présents sur le Verdon. Alors il y a quand même 5 barrages sur le Verdon, il y a le canal de Provence aussi qui capte l'eau du Verdon pour pouvoir l'amener jusque dans les basses terres, notamment à Aix-en-Provence et ailleurs. Alors à rappeler aussi que l'eau de la Durance, elle, c'est aussi l'eau que boivent les Marseillais. Et puis après, il y a tous les autres petits aménagements qu'on trouve un petit peu partout sur le territoire. Donc en fait, dans ce film, on a interrogé cette mémoire, voilà. C'est un film qui est très paysager, quelque part. Donc avec des très beaux survols de drones, avec des plans aussi macro, des plans sous-marins, des plans subaquatiques, on va dire, pour pouvoir interroger l'eau sur tout le territoire. Alors dans le film, on a pris parti de personnifier, on va dire, l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau parle en son nom, en complément des protagonistes, c'est-à-dire des experts, qui sont interrogés pour parler de l'eau en tant que ressource. Donc d'un côté, on a des représentants, on a des hydrobiologistes, on a des représentants de l'EDF, on a des représentants du canal de Provence. Personnellement, j'interviens également dans le film d'une manière très très discrète pour parler de cette eau sur le territoire. Et de l'autre côté, c'est l'eau qui va parler elle-même et qui s'adresse aux DOM, un petit peu comme on l'avait fait avec le Verdon en 2020. Alors le but étant, j'insiste bien, c'est pas tant de faire culpabiliser le grand public sur les économies et tout ça, non, non, loin de là. C'est vraiment de rappeler que cette ressource est capitale pour le développement des milieux, pour le développement de la nature et pour le développement des sociétés humaines. Et qu'il va falloir trouver maintenant, et accélérer, je dirais, des pistes de solutions pour trouver un juste équilibre entre le développement des milieux naturels et de nos sociétés, quoi. Et c'est vrai que l'eau a toujours été souveraine hein, dans le territoire, que ce soit par son excès avec les crues et les inondations. On l'a vu en 2020 avec les crues de la Vésubie, 1959 avec la rupture du barrage de Malpassé, un barrage qui n'était pas un barrage hydroélectrique, hein, c'était pas du tout un barrage EDF, c'était un barrage qui était destiné à l'irrigation. Et puis actuellement, on le voit depuis quelques mois avec une sécheresse inégalée qui sévit sur la totalité du territoire, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire que ce film sort à point nommé.
Avec le réchauffement climatique aussi, il va y avoir des solutions ou ça va être complètement déprimant?
Oh non, mais je pense que des solutions, il faut savoir que beaucoup de gestionnaires, de scientifiques, ils travaillent depuis de longues dates, hein, parce que c'est vrai que cette eau, on le sait, hein, le réchauffement, on en parle depuis quelques années, déjà dans les années 60-70, on en parlait déjà. Bon, simplement, le discours n'a jamais été écouté. Bon, là, maintenant, c'est toujours pareil. Hein. On attend que qu'on soit dans une limite un petit peu difficile à accepter pour pouvoir se bouger, quoi. Donc, beaucoup de personnes œuvrent à trouver des solutions. Alors, ces solutions, ça va être évidemment une agriculture différente, donc des modes de production différents, des modes d'irrigation différents. Ça, c'est capital. Il va falloir aussi que l'usager de l'eau, que l'on est tous, donc change également ses modes de consommation, parce que la plus grosse ressource mobilisable aujourd'hui, c'est quand même celle de nos économies. Donc, cette économie, ça se mesure au quotidien, on le sait, hein, ça de toute façon, à travers l'utilisation que l'on fait de l'eau, quoi. Il va y avoir probablement de nouveaux aménagements, c'est-à-dire de nouveaux stocks, des nouveaux réservoirs hein, qui vont servir en cas de déficit. Jusque-là, on peut agir sur la ressource en elle-même. Maintenant, concernant le réchauffement, pour rappel, ce réchauffement est global, donc il est planétaire. Il est évident que là, tout le monde en parle, hein. Il va falloir faire ce qu'il faut pour pouvoir faire baisser cette température. Parce que nous, en France, en PACA, on est quand même habitués à vivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Vous le savez, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai travaillé dans les endroits les plus arides de la planète. Beaucoup de personnes savent vivre avec très peu d'eau. On le voit dans le Sahara, on le voit dans tous les déserts du monde, hein. Mais c'est pas du tout notre cas. Les Provençaux, eux, sont habitués à vivre avec beaucoup d'eau. Donc, et cette année, ça fait des dégâts. Il va falloir aussi modifier, je dirais, nos usages récréatifs. Alors, c'est vrai que certains cours d'eau, aujourd'hui, ne produisent plus assez pour pouvoir exercer des activités d'eau vive. Donc, qui est une activité qui est aussi une manne économique hein, sur certains cours d'eau. Ensuite, il y a les grands lacs. Les grands lacs, là aussi, il va falloir un petit peu modifier nos habitudes. Alors, un petit mot sur les grands lacs, pour essayer de contrer un petit peu le discours des grands médias qui ont un petit peu saccagé le sujet. Il y a de l'eau dans le lac de Saint-Ponçon, il y a de l'eau dans le lac de Sainte-Croix et dans le lac du Verdon. Donc, le lac de Saint-Ponçon, le lac du Verdon, par exemple, le lac de Sainte-Croix, il y a 80 mètres de fond. Donc, même s'il est sur une côte très basse, c'est-à-dire qu'il a peut-être actuellement 7 mètres de moins, je dirais, qu'à saison égale, on va dire qu'aujourd'hui, le lac de Sainte-Croix, c'est l'équivalent d'un lac de fin de saison d'été ou de début d'automne. Il y a quand même suffisamment d'eau pour pouvoir exercer, pour pouvoir se baigner. Maintenant, les plages sont un petit peu plus boueuses et limoneuses, donc c'est moins confortable qu'un lac plein, c'est évident. De même que le lac de Saint-Ponçon a encore aussi suffisamment d'eau. Donc là, j'y tiens parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui en pâtissent, et qui pâtissent non pas, je dirais, du manque d'eau, mais surtout du catastrophisme des grands médias influenceurs. Voilà, donc c'est important de le rectifier. En revanche, les cours d'eau, comme le Verdon, ne sont plus praticables effectivement en raft ou en kayak. Donc seules quelques petites activités sont encore tolérées. La Haute Durance, c'est pareil, il n'y a plus beaucoup d'eau. À savoir quand même que la Haute Durance, elle, bénéficie de l'eau de fonte des glaciers. Alors c'est important parce que ce réchauffement, quelque part, ça peut paraître paradoxal, mais accélère la fonte des glaciers. Donc, du coup, il y a de l'eau. En revanche, quand il n'y aura plus le glacier et qu'il y aura le réchauffement, eh ben, il n'y aura plus d'eau. Et là, les pronostics, c'est décrit pour entre 2050 et la fin du siècle, quoi. Donc, c'est bientôt. Donc, il va falloir faire très, très vite. Je ne sais pas, j'ai peut-être beaucoup parlé. Si vous avez d'autres questions.
On va juste rappeler, bien sûr, donc ce film va être projeté grâce au partenariat avec le cinéma de pays et les écrans du lac dans plusieurs villes très, très prochainement. Baudouin, c'est déjà le 20 juillet.
Ça va être 1h30. Alors, je tiens à rappeler que ce sont des projections qui sont gratuites, qui sont cofinancées par le cinéma de pays, les communes qui nous accueillent et également EDF. Donc, le public est convié. Alors, si ça se passe à 21h30, c'est qu'on attend la nuit, hein, tout simplement, parce que c'est un cinéma de plein air. Alors, cinéma de plein air avec une équipe de professionnels, c'est-à-dire qu'on projette sur des écrans géants, généralement au bord du lac. Alors, effectivement, donc, il y a Baudouin le 20 juillet. Ensuite, il y aura Castellane le 8 août, Quinçon le 10 août et Moustier le 22 août. Voilà, alors, c'est sensiblement 21h, 21h30. Ce film-là passera également dans les salles, avec ou sans notre présence, ça dépend. Et puis je pense qu'il devrait théoriquement être diffusé sur le petit écran à partir de cet automne. Pour avoir plus d'informations, il faut aller sur le site, la page Facebook professionnelle de Octopus Productions, les Marcheurs de la Terre.
Le public aura le plaisir d'échanger avec vous à l'issue de la projection du film.
Voilà, et théoriquement, il devrait aussi y avoir des représentants, je dirais, des intervenants qui apparaissent dans le film, donc des techniciens, des gestionnaires, également des scientifiques. C'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'eau en Provence et même ailleurs dans le monde.